France Inter.
À la une de ce 13h, la France et le Royaume-Uni travaillent avec Kiev à un plan pour cesser les combats en Ukraine. Déclaration du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui accueille aujourd'hui à Londres une quinzaine de dirigeants européens réunis autour de Volodymyr Zelensky. Nous serons en direct de Londres. Emmanuel Macron en appelle ce matin à un réveil stratégique de l'Europe. À quoi peut ressembler une nouvelle stratégie européenne de défense? Nous en parlerons avec notre invité, le général Trinquant. À la une également, le processus de trêve en péril en Israël, entre Israël et le Hamas. Et puis en France, nous retournerons à la Faute-sur-Mer, en Vendée, 15 ans après la catastrophe de Xynthia, qui avait fait plusieurs dizaines de morts. Il y aura les bonnes ondes de Sandrine Houdin. En cette journée des grands-mères, nous allons essayer de capter les meilleures recettes culinaires.
Alors, ça, c'est la farine.
Ouais. Tu la verses direct,
ça ? Oui, oui, ouais, moi je passe pas. Hein.
C'est noté, chef.
J'aime bien regarder les apprentis travailler.
Et puis le temps de ce dimanche, Magali Rochereau, avec un contraste entre le nord et le sud.
Oui, Eric, et aussi des températures plus clémentes.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. Voilà donc un sommet qui était prévu avant la séquence du bureau ovale où Volodymyr Zelensky a passé un mauvais quart d'heure vendredi. Le sommet de Londres sur la sécurité en Europe, il a débuté ce matin à l'invitation du Premier ministre britannique Keir Starmer. Une quinzaine de dirigeants européens responsables de l'OTAN, également le Canada, la Turquie, autour du président ukrainien. La photo officielle est prévue dans une demi-heure. Et dans la presse française, ce matin, Emmanuel Macron en appelle à un réveil stratégique de la France. On va voir dans un instant avec notre invité ce que cela sous-entend. Nous partons d'abord à Londres, donc, rejoindre Paul Barcelone. Bonjour.
Bonjour Eric.
Vous êtes l'envoyé spécial pour ce sommet. La France et le Royaume-Uni travaillent donc avec Kiev à un plan pour cesser les combats en Ukraine.
Absolument, aucun détail n'a filtré, mais ce sommet qui va donc se tenir ici à la Lancaster House, à quelques pas à peine du palais de Buckingham, ce sommet doit permettre de le préciser avant qu'il soit soumis dans un deuxième temps aux États-Unis. Vous savez, ces derniers jours, Emmanuel Macron a déjà évoqué une paix mesurable et durable avant l'envoi de troupes de maintien de la paix sur le terrain. Ce sommet est aussi et peut-être surtout le signe de l'activisme des Européens pour éviter, je cite, une troisième guerre mondiale, signe de leur volonté de s'organiser pour bâtir une défense commune face aux désengagements américains avec un message d'unité. À l'instant, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien proche de Donald Trump, estime très important d'éviter que l'Occident se divise. Il est minuit moins le quart, mais on a encore la main, lâchette Emmanuel Macron ce matin dans les colonnes de la presse dominicale, avec l'envie aussi de calmer le jeu. Après le clash diplomatique entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi à la Maison Blanche, le président ukrainien arrivé ici à Londres hier soir, il est aussi attendu sur la photo de famille cet après-midi pour donc ce sommet qui, selon une source diplomatique française, peut absolument tout changer.
Paul Barcelone, en direct de Londres, le président français souhaite donc rabibocher les deux présidents, américain et ukrainien. Et dans la presse dominicale, donc ce matin, Emmanuel Macron appelle à un réveil stratégique de l'Europe en espérant que chacun mette la main à la poche. Bonjour général Dominique Trinquant.
Bonjour.
Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Concernant les moyens militaires, que doit faire l'Europe aujourd'hui pour compenser une éventuelle défection, une volte-face américaine en Ukraine ?
Alors, il doit faire trois choses. D'abord, produire plus et mieux pour les Européens. Mais deuxième point, aussi pour les Ukrainiens qui vont en avoir besoin. Et troisième point, essayer de coordonner les forces européennes qui doivent être capables de pouvoir proposer un déploiement sans l'appui américain, ou du moins avec un appui américain assez distant. Donc c'est quelque chose qui est que tout le monde anticipait, du moins en France. En Europe, en revanche, il y a un certain nombre de pays qui se réveillent du doux endormissement qui leur permettait de compter en permanence sur le parapluie américain.
Vous dites produire plus et mieux, c'est ce qu'on appelle une économie de guerre que défend Emmanuel Macron. Ça ressemble à quoi une économie de guerre ?
Eh bien écoutez, pour l'instant on n'y est pas effectivement. Ça veut dire passer un certain nombre de régulations qui limitent l'industrialisation en Europe et en France singulièrement. Ça veut dire avoir rapidement des financements qui permettent de passer des contrats avec les sociétés et de même mobilisé. Il y a une mobilisation de réservistes dans l'industrie qui est en cours sous la houlette de la Direction Générale de l'Armement.
Et il y a aussi cette idée d'envisager un envoi de militaires communs à plusieurs pays d'Europe. On parle de 30 voire 40 000 soldats européens. Est-ce que ça a du sens d'envoyer des militaires européens sans l'appui américain derrière ?
Alors au sol, ça a du sens. On sait bien que les Américains ont dit « no boots on the ground », donc ils mettront pas un soldat au sol. En revanche, les Européens, et tout particulièrement les Britanniques et les Français, ont dit qu'ils étaient prêts à le faire. En revanche, les Européens souhaitent avoir toujours une couverture aérienne américaine, c'est-à-dire un espèce de filet de sécurité qui ferait que si les forces, et je dis bien si les forces devaient être attaquées, il puisse y avoir un secours américain. Il faut bien voir d'abord à quoi servent les troupes, c'est-à-dire quelle est la forme de cessez-le-feu. Parce qu'à partir du moment où il y a un cessez-le-feu, le premier point, c'est l'accord des Russes et des Ukrainiens. Donc commençons par parler de ça. Ensuite, bien sûr, le problème des troupes européennes, c'est qu'il faut qu'elles soient acceptées par les Russes, ce qui, pour l'instant, n'est pas acquis.
Mais pour que ce soit efficace, il faudrait, je le disais, entre 30 et 40 000 soldats. Quels sont les pays européens, d'ailleurs, qui pourraient fournir du contingent ?
Alors les premiers, je les ai cités, les Français et les Britanniques, qui au passage, la réunion se fait à Lancaster House. C'est intéressant parce qu'on a un accord bilatéral Lancaster House entre Britanniques et Français pour constituer un corps expéditionnaire. Donc on y est, c'est quasiment ça. Les Italiens ont dit que finalement, ils pourraient, s'il y avait un secours de l'OTAN, il y a bien sûr les Pays-Baltes. La Pologne, qui s'est beaucoup renforcée pour l'instant, ne souhaite pas se déployer en Ukraine, mais en revanche, pourrait assurer ce qu'on appelle la base arrière, puisqu'ils sont sur la frontière. Donc voilà, il s'agit d'avoir des troupes, mais tout dépend de la mission à remplir. On ne peut pas dire on va en mettre 30 ou 40 000 si on ne sait pas ce qu'elles vont faire.
Encore un mot sur la menace russe en Europe. Cette fois, Emmanuel Macron laisse entendre ce matin dans la presse que Vladimir Poutine pourrait aussi s'intéresser à la Moldavie et même à la Roumanie, c'est-à-dire s'en prendre en Europe à des pays de l'OTAN. Le président français cherche quoi ? À nous faire peur, là ?
Non, c'est la réalité. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au moment des élections du président de la République en Roumanie. Il y a eu une interférence absolument colossale de la Russie. Sur la Moldavie également, puisqu'il y a une raison qui est de langue russe. Et enfin, M. Lavrov, il n'y a pas longtemps, a annoncé que finalement, il ne se contentait pas du Donbass et de la Crimée, qu'il voulait aller jusqu'à Odessa. Et de Odessa, vous faites la jonction avec la Transnistrie et vous êtes sur la Moldavie et la Roumanie. Donc c'est une réalité, c'est un débordement par le sud pour verrouiller complètement la mer Noire du côté russe.
Eh bien, je vous remercie, Général Trinquant. Je signale au passage votre dernier livre, « Ce qui nous attend », l'effet papillon des conflits mondiaux. Le livre est paru chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Général Trinquant. Aujourd'hui aurait dû débuter la phase 2 de la trêve entre le Hamas et Israël pour libérer tous les otages et envisager une paix durable, mais ce processus est en péril depuis hier soir. Israël souhaite d'abord que le Hamas prolonge la phase 1, ce que refuse le mouvement palestinien. Alors en représailles, Tel Aviv annonce suspendre l'aide humanitaire dans l'enclave, une aide pourtant indispensable à la survie des Gazaouis. Et au final, le Hamas dénonce une violation de l'accord. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Direction internationale de Radio France. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
Alors pour bien comprendre, il faut rappeler que le processus de trêve a été construit en plusieurs étapes. Israël et le Hamas auraient dû rentrer dans ce qu'on appelle la phase 2, c'est-à-dire la matérialisation de la fin de la guerre, et ça ne s'est pas fait. Ça aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Donc dans ce contexte, Israël, hier soir, a proposé de changer les termes du processus. Le bureau du Premier ministre a fait savoir que le gouvernement souhaitait prolonger la phase 1. Israël dit que c'est une proposition qui vient de l'envoyé spécial du président américain pour débloquer une situation difficile. Les Israéliens proposent donc un cessez-le-feu provisoire jusque mi-avril, dans lequel tous les otages seraient libérés en deux vagues, une dès le premier jour, une à la fin du processus. Ce matin, le Hamas a rejeté ce schéma. Il demande l'application de la deuxième phase. En réaction, Israël a annoncé la suspension de l'entrée des camions dans Gaza pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle menace d'autres conséquences si le blocage persiste. Le Hamas, de son côté, dénonce une violation de l'accord, un chantage mesquin. Israël, dit-il, porte la responsabilité du sort des otages.
Étienne, pourquoi ce blocage maintenant du processus de cessez-le-feu ?
parce que la phase 2 est le véritable terrain des concessions. Elle prévoit la fin de la guerre, donc le retrait de l'armée israélienne et la recherche d'une gouvernance pour l'enclave. Cela touche aux lignes rouges des uns et des autres. Israël a déjà fait savoir, par exemple, qu'elle refusait pour l'instant de se retirer de la frontière sud avec l'Égypte. Le Hamas ne souhaiterait pas déposer les armes et quitter l'enclave, comme exigé par le Premier ministre israélien. Il y a maintenant un risque de rupture de trêve. Le moment est très sensible puisqu'on est au début du Ramadan qui peut cristalliser les tensions.
Oui, cristalliser les tensions, et justement le ministère de la Santé du Hamas à Gaza annonce la mort ce matin de 4 personnes dans l'enclave tuées dans des attaques de l'armée israélienne. Merci beaucoup Étienne Monin. La France met en place une riposte graduée à l'encontre de l'Algérie. Nouvel épisode de la crise entre Paris et Alger. C'est le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui le précise ce matin dans le Figaro. Certains ressortissants algériens ont déjà été expulsés à leur arrivée à l'aéroport en France, notamment à Roissy, où la France donc exige désormais un ordre de mission pour les Algériens qui présentent un passeport diplomatique. Un engin spatial privé américain s'est posé ce matin sur la Lune.
Three contact sensors tripped.
IME reports lunar gravity and it is stable.
Y'all suck the landing. We're on the moon.
Nous sommes sur la Lune, vient donc de s'exclamer cet ingénieur du centre de contrôle de la mission à Austin, Texas, sous les applaudissements de l'équipe. L'engin de la société Firefly Aerospace s'est donc posé sans encombre sur la face nord-est de la Lune pour le compte de la NASA. Et jeudi prochain, un autre robot spatial tentera de se poser à son tour sur la Lune. Deux missions donc qui témoignent de l'importance croissante du secteur privé dans l'exploration spatiale. Une marche silencieuse ce matin à la Faulte-sur-Mer en Vendée, 15 ans après la catastrophe de la tempête Xynthia. 47 personnes avaient été tuées, dont 29 sur la seule commune de la Faulte. Et bien 15 ans plus tard donc, même si des leçons ont été tirées en matière de sécurité, le maire de la commune se prépare à de nouveaux phénomènes aussi violents que la tempête Xynthia. Yves René Tapon.
Pour le directeur des services de la ville, Jean-François Etienne, le temps de la colère est passé.
Aujourd'hui, la mémoire est totalement apaisée. C'est pas aujourd'hui Xynthia, c'est à la fois un moment affectif parce qu'il y a eu des décès, parce que c'est une vraie catastrophe, parce que j'ai plein d'amis qui ont énormément souffert. Et je pense à eux. Et en même temps, c'est aussi autour de ça que le territoire s'est reconstruit et qu'il est ce qu'il est aujourd'hui. Et finalement, il n'est pas si mal que ça.
Mais les défis ne manquent pas pour cette station, avant tout balnéaire.
70% de nos maisons sont des résidences secondaires. Et on sait qu'aujourd'hui, le temps en fait, de propriété d'une résidence secondaire est très court. Ici, quelqu'un est propriétaire en moyenne pendant 6 ans, 7 ans. Ce qui veut dire que depuis Xynthia, depuis 15 ans, il y a peut-être déjà eu deux propriétaires sur certaines maisons. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'approche en fait, de l'habitant de 2025 n'est pas celle de 2010 et que c'est une approche à nouveau vers une recherche du bord de mer, donc d'avoir quitté une zone urbaine et à qui on travaille quotidiennement pour inculquer la culture du risque.
Cela commence par des permis de construire beaucoup plus drastiques. En 2027, la commune va revoir un nouveau plan de prévention des risques et va petit à petit délocaliser des équipements collectifs dans des zones moins dangereuses.
Yves-René Tapon à la Faulte-sur-Mer, ici Loire-Océan. Deux jours après le passage du cyclone Garance sur l'île de la Réunion, il reste ce matin 30 000 foyers sans eau courante, notamment à Saint-Denis, où les habitants du chef-lieu du département vont probablement devoir patienter jusqu'à mardi. Écoutez ce qu'en dit David Brunel, il est le directeur technique des exploitations chez Runeo à la Réunion.
On a une nette amélioration, mais il subsiste encore 30 000 foyers privés d'eau aujourd'hui. Le point le plus dur pour nous, c'est en effet la ville de Saint-Denis, avec notre ressource principale qui est la rivière Saint-Denis. Le captage est totalement colmaté et nous sommes depuis hier avec des équipes en train de le décolmater. Un chantier très compliqué, difficile, on n'a accès que par hélicoptère et on espère pouvoir le remettre en service le plus rapidement possible. On est très prudent parce qu'en effet, on ne sait pas sur la rivière Saint-Denis notamment ce que l'on va trouver. Au fur et à mesure, on avance dans notre chantier de réparation du captage, donc on veut être prudent. Une fois qu'on aura de l'eau, il faut remplir les réservoirs et pomper vers les niveaux supérieurs, et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça qu'on se donne ce pas de temps pour le moment.
propos recueillis par Réunion La Première. Il reste aussi 90 000 clients sans électricité à La Réunion. La cérémonie des Oscars, ce sera la nuit prochaine. On va s'intéresser plus particulièrement dans ce journal à une Française à la conquête d'Hollywood. Après Justine Triet l'année dernière, la réalisatrice Coralie Farja est en lice ce soir avec son film The Substance, nommé comme Jacques Audiard dans la catégorie du meilleur film et de la meilleure réalisation. Coralie Farja est donc l'autre Française qui fait parler d'elle au pied du Dolby Theatre, Corinne Pellissier.
Celui-ci, Demi Moore, l'a déjà signé.
Il y a 12 ans, elle réalisait son tout premier court-métrage. La voilà aujourd'hui à signer des autographes. Coralie Farja, de retour ce soir sur le Walk of Fame à Hollywood, où tout a démarré pour De Substance, que ce fan a déjà vu 3 fois.
Je la suis depuis Revenge, qui était géniale. Elle a un style unique. Elle a signé le meilleur film de l'année.
Have you ever dreamt of a better version of yourself?
Une histoire accouchée pourtant dans la douleur et pour laquelle la cinéaste a dû se battre pour imposer son style et son point de vue, loin des diktats de l'industrie.
J'ai grandi avec Star Wars, Indiana Jones, j'ai rêvé de ces univers complètement fous et j'ai un attachement très fort au cinéma d'auteur français, à la préservation du contrôle créatif. Il faut être patient, il faut être vraiment acharné en fait dans ce métier, il faut avoir la foi parce qu'il y a... c'est très dur de faire des films.
Nommée dans 5 catégories aux Oscars, Coralie Farja est à 48 ans la cinéaste qui monte en Amérique, jubile son producteur Nicolas Royer.
C'est un film qui raconte Hollywood, c'est un film américain. Coralie a vraiment trouvé la manière de... les a vraiment touchés. Ce qui n'est pas évident pour les réalisateurs français. Hein.
You can't escape from yourself.
Après 6 mois d'une campagne effrénée, elle est avec Jacques Audiard, l'autre Frenchie en lice pour l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation.
Et la cérémonie des Oscars, ce sera donc la nuit prochaine à partir d'1h du matin sur la plateforme Disney. Comme chaque premier dimanche de mars, on fête aujourd'hui les grands-mères. On sera dans un instant avec des mamies gâteaux en cuisine avec Sandrine Houdin. Écoutez d'abord ce que l'on préfère parfois chez sa mamie. Question posée dans les rues de Strasbourg par Élise Ulata.
Du côté de mon père, on cuisine beaucoup ensemble. Ma grand-mère, elle est mariée avec un viticulteur. On faisait des crêpes pour tous les employés pendant toutes les vendanges, etc.
Qu'est-ce que tu préfères faire avec ta grand-mère ?
Des tartes à la pomme.
Et tu connais sa recette secrète ?
Non, mais elle les fait très bonnes, les tartes.
Eh bien, moi, ma grand-mère, quand je ne sais pas quoi manger chez moi, je vais chez elle et elle me fait toujours un bon petit repas où je sais que je ressors le ventre plein.
Moi, avec ma grand-mère, c'était plutôt principalement les vacances. On passait tous de bons moments en famille. Et je vois souvent ma grand-mère qui a toujours le sourire aux lèvres. Et c'est une personne qui a créé ma personnalité aujourd'hui. C'est grâce à elle que je suis content, quoi.
Voilà, on a bien compris que ce que l'on préfère parfois chez nos mamies, ce sont les bons petits plats. Bien, c'est précisément le thème des bonnes ondes de Sandrine Houdin. Second épisode maintenant avec Rémi Dispersin. Ce bordelais veut collecter et transmettre les recettes culinaires de nos aînés. Pour cela, il s'invite dans leur cuisine pour choper, dit-il, leurs trucs et leurs astuces. On le retrouve comme hier en Normandie chez Mamie Lulu. Hier, ensemble, ils ont cuisiné la blanquette. Eh bien, aujourd'hui, c'est la sauce.
Alors, ça, c'est la farine.
Ouais. Tu la verses direct ?
Oui, oui, oui. Moi, je passe pas. Hein.
C'est noté, chef.
Alors, de l'eau froide. C'est si on met de l'eau chaude sur la farine et cuit. Non, là, prends ton bol. Là. Mélange un peu, on va remettre après.
Rémi s'applique.
Vous avez encore vous-même dans la bouche le goût du plat de votre grand-mère ?
Ah, mais de suite, le premier plat, ça serait la sole meunière. Alors ça, c'est toute mon enfance.
T'entends, tu verses pas tout de suite, hein ?
Non, non, je verse pas.
J'aime bien regarder les apprentis travailler.
Mamie Lulu, en chef cuistot, ça fait marrer son petit-fils. Cela dit, elle le mérite.
Par exemple, j'en rigolais avec ma sœur il y a encore pas si longtemps, même des frites. Eh ben, ma grand-mère a une façon de faire, et quand on mange des frites, c'est pas aussi bon. Les frites de ma grand-mère nous manquent.
Ça s'appelle la transmission.
Quand je suis dans la maison faire la cuisine, je suis avec ma mère. Mais c'est terrible parce que j'ai ma mère, je vois ma mère à côté de moi.
C'est du patrimoine.
Ah ben surtout, oui, oui, oui. C'est un patrimoine qu'il faut conserver.
Ça tombe bien, Rémi est là pour ça.
Pour moi, c'est un trésor. La transmission, pour moi, c'est un devoir. Moi, ça me nourrit. Et si on a de grands chefs en France, c'est que dans l'ombre, il y a une grand-mère qui a donné un savoir-faire.
Hop, je vais rajouter un petit truc. C'est du fond de veau. Ça amplifie le goût de la sauce. Et vous me direz ce que vous en pensez.
Bah, rien qu'à l'odeur, là.
On a déjà faim.
Hop, on emballe la marmite.
Nous sommes 6.
Ça vous arrive souvent de mettre le couvert ?
Mais je mets tout le temps le couvert, parce que je ne suis pas que commis.
6, voilà.
Ça sent bon, hein ?
Oui.
Bon, là, je vais goûter. C'est vraiment excellent. Il ne manque aucun assaisonnement. La viande est très très tendre et cette sauce, c'est juste incroyable.
Lucienne jubile.
Ah ben, hey, vous voyez pas, il mange avec bon appétit. Ça me fait plaisir. Hein. J'appréhendais un petit peu au début, parce que je me suis dit, pourvu que je fasse pas de conneries. Mais bon, finalement, je suis très contente.
Ils vont passer l'après-midi ensemble à se raconter leur vie.
Moi, j'arrive en voiture à leur rencontre, mais je suis pas sûr de reprendre le volant. Il est plus probable que j'arrive en Uber à la maison, quoi.
C'est-à-dire ?
Ça commence par l'apéritif, puis après, il y a l'accompagnement avec le plat, donc c'est toujours du vin. On finit au Dijon. Quand je suis avec elles, c'est comme si elles retrouvaient leurs 20 ans. Donc, ça peut être que rocambolesque.
Lucienne, merci pour tout.
De rien.
Merci de ton accueil.
Le plaisir a été pour nous.
Au revoir, mamie Lulu.
Au revoir, Sandrine. Surtout, changez rien. Vous êtes très bien comme vous êtes.
On va la savourer, votre blanquette.
C'est vrai.
Eh bien, vous m'en
merci
garderez.
Pour tout, merci,
merci
pour tout. Hein.
Et vous m'en garderez une bonne part dans les bonnes ondes de Sandrine Houdin. Le temps.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables. Par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Magali Rochereau.
Bonjour Eric.
Les conditions sont anticycloniques sur le nord de la France.
Oui, après dissipation des brouillards, ce matin le ciel promet d'être ensoleillé pour la suite de la journée. Ce qui n'est pas le cas dans la moitié sud du pays qui continue d'être bien voilé entre Aquitaine et Provence et plus généralement au sud d'un axe estuaire de la Gironde, Alpes centrales, avec même toujours quelques flocons du côté des Pyrénées au-dessus de 1300 mètres et des Alpes frontalières. Dans la partie est de la Corse, les pluies vont en s'atténuant cet après-midi.
Et en général, un peu plus de douceur. Hein.
Oui, les maximales sont en légère hausse. Elles rejoignent peu à peu les valeurs de saison, avec 8 à 12 degrés annoncés de la Normandie au Grand Est, 11 à 15 plus au sud. Elles peuvent même les dépasser dans le sud-ouest avec des pointes à 15-16 degrés.
Les prévisions de Magali Rochereau.